Radio Grand Ciel 106.8 Chartres, bonjour. Le chemin du milieu, programmé par Émilie, présente le poète Lippo. Simon à la technique. Avec la terre pour oreiller et le ciel pour couverture, Lippo, Lipai, Litaipai vit le jour au 8e siècle, au sud du désert de Mongolie, sous la protection de l'étoile Taipai, l'étoile du berger, dont les étincelles de son scintillement se solidifièrent en une montagne de jade blanc sur la terre. Combien vaste le Taipai, les étoiles sur les pentes dispersées. Du paradis, seulement 300 lis. De la terre mortelle, si loin, soupire Lippo. Immigré au village du Lotus Bleu, où se croisent toutes les cultures, dans le pays de Tchou, verdoyant de montagnes et de rivières, ses parents, riches commerçants érudits, lui enseignèrent les livres canoniques et la poésie, lui allouant aussi un maître d'armes pour le maniement de l'épée et des chars. Vers sa 15e année, il fit une retraite au temple taoïste de la Grande Clarté, où il cherche le maître. Un chien aboie, le bruit de l'eau, les fleurs de pêcher imprégnées de rosée sont ardentes. Nulle cloche ne retentit. Les bambous sauvages percent la brume bleue, une cascade est suspendue au pic d'émeraude. Nul ne sait où il est parti. Des hauteurs du mont Tiao, flanqué des précipices, je contemple la montagne du pin solitaire, qui semble surgir d'un nuage bleu. Je voudrais tant que l'arc-en-ciel aux cinq couleurs se courbe en un pont et relie les deux cimes. Ô immortel, si vous m'aimez, faites-moi un signe de la main et je traverserai sans crainte. Afin de parfaire cette éducation livresque et spirituelle et qu'il puisse faire l'expérience de la vie, son père, le dotant d'une bourse bien remplie d'or, l'envoya à Luoyang, la capitale impériale, où il rencontra Chao Yui, un maître stratège qui lui enseigne l'art de gouverner. C'est là qu'il se lie d'amitié avec des chevaliers, les Xia. Ce jeune chevalier errant aime à pavaner de la tête aux pieds, couvert de soie et de damas. Des courtisanes à la beauté d'orchidées rehaussent son cortège. Partout où il va, l'accompagnent la musique et le chant. Le jour, il chasse, joue au polo. La nuit, il s'amuse au jeu du hasard. Quand il perd des millions, sur sa joue aucune ombre. En bonnet de soie orné de glands, un sabre recourbé au reflet de glace à la taille, sur son cheval blanc scellé d'argent scintillant, il galope comme une étoile filante. Tous les 10 pas, il terrasse un adversaire et peut ainsi faire 1000 lis sans faiblir. Quand il achève sa mission, il époussette son vêtement et disparaît, ne laissant aucune trace de lui-même ni de sa renommée. La nuit, continue Lippo, caressant mon épée, je chante des vers et je siffle. Mon ambition me fait parcourir 1000 lis par jour. Je vide d'un seul trait une coupe de vin et je ris de mon désir de sauver le monde entier. Le jeune homme des 5 tombes a surgi à l'est du marché doré. Il galope dans la brise du printemps. Souriant, il entre dans la taverne. « Te souviens-tu, comme jadis à Luoyang, le marchand de vin, pour moi fit construire une taverne au sud du pont ?» De laquelle Lippo pouvait observer les mouvements de la rue. Mais les hommes d'aujourd'hui ne sont pas ceux de jadis. Les dignitaires se rendent à l'audience en ordre rituel. La lune pâle se glisse derrière le palais de l'Ouest. La lueur tamisée de son dernier rayon frôle les tours des remparts. La splendeur des costumes et des capes luit comme le soleil parmi les nuages. L'audience à peine terminée, il s'égaye vite dans la ville. Les chevaux sellés galopent comme des dragons volants. Les passants effrayés sautent de côté pour libérer le chemin. Ils franchissent des portails, montent dans des grandes salles où les attendent de grandes tables chargées de mets exquis. De ceux qui ont achevé leur mission, aucun ne veut se retirer, et ceci, dans toute l'histoire du pays, n'a apporté que malheur, constate-t-il. D'un œil critique envers les fonctionnaires de l'État, le poète laisse la capitale pour aller étudier les philosophes taoïstes. Avec le maître de la falaise de l'Est, je me retire au sud de Minshan. J'y reste perché pendant plusieurs années. J'apprivoise des oiseaux rares. Quand je les appelle, ils viennent manger dans ma main sans méfiance. Le gouverneur de Quanghan entend parler de nous et vient nous rendre visite. Il nous propose de nous présenter à la cour comme personne à la vertu remarquable, mais nous refusons. Quittant le monastère, le fleuve l'emmène vers l'est. La nuit, je quitte l'embarcadère de Chinchi pour les Trois Gorges. J'aime les montagnes célestes. C'est pour elles que je me rends au pays de Shan. À Changling, je rencontrais Sima Chen, grand maître des arts du Tao, au mont de la terrasse céleste. Il me dit que j'avais l'allure d'un immortel et l'ossature d'un taoïste. Il m'invita à l'accompagner dans les voyages de l'esprit, au-delà des huit extrémités. Tout à coup, s'assimilant à l'oiseau mythique Peng, sous l'effet du souffle créateur du maître, il se mit à composer « Le grand rapace rencontre l'oiseau rare ». Le poème dit « L'immense ancien Nan Hua découvrit le mystère du ciel au jardin de lac et se transforma en un grand oiseau, le Peng, tel un embryon prenant peu à peu sa forme. Se débarrassant de sa nageoire dorsale, il se lava dans le courant printanier de la mer Po et se sécha sur le mûrier du soleil levant. Ses yeux reflétaient les rayons du soleil et de la lune. Son aile droite scella l'ouest, le plus lointain. Son aile gauche couvrit les déserts extérieurs de l'est. Ses talons, entourés d'arc-en-ciel, foulèrent les confins de la terre. Son vol encercla les limites du ciel. Il construisit son nid dans l'intangible. Sa demeure devint le vide. » Fort de ce voyage extatique, se sentant invulnérable, il pousse vers le pays de Wu, où les femmes sont les plus belles de Chine. Du vin de raisin dans des coupes en or, une belle de Wu de 15 ans, ses sourcils soulignés d'indigo, ses bottes de brocart rouge, elle se serre contre moi, derrière la tenture au nénuphar, je ne peux pas te résister. Mais j'ai toujours aimé gravir les montagnes, et cette nuit, je loge au temple du sommet. Je lève la main, elle touche les étoiles. Je n'ose parler à voix haute, de peur de déranger les habitants du ciel. Dans ce monastère, il découvre le sutra de l'estrade, dont les propos énoncent l'éveil spontané, la voix du Chan, fusion du bouddhisme et du taoïsme. Il remercie cet enseignement en composant des inscriptions sur les stèles des moines décédés. J'ai dû partir au sud du fleuve Huai. J'avais lu les éloges de Sima Xuanghu sur les sept lacs célèbres du Yumeng, au pays de Chu. C'est la raison pour laquelle je suis allé visiter ces lieux. À l'aube, je grimpe jusqu'à la source de la rivière Blanche Pour un court instant, je me soustrais aux soucis du monde. L'îlot pittoresque semble surgir d'un conte de fées. Comme d'un coin du ciel, les eaux se jettent dans le vide de l'espace. Du regard, je suis le cortège des nuages. Je suis triste que le jour s'achève. Les derniers rayons du soleil suivent les eaux qui fuient vers l'ouest, troublant mon cœur de pèlerin. L'esprit apaisé, je chante en regardant les nuages et la lune. Ma chanson éteinte, longuement, j'écoute le bruissement des pins. Puis, ensuite, je fus invitée dans la famille du ministre Chou, qui m'a donné pour épouse sa petite fille. Au pays de Wu, les filles de Chang'an ont les yeux et les sourcils plus beaux que la lune et les étoiles. Dans leurs sandales brillent leurs pieds blancs comme neige. Son visage, serti d'une nouvelle coiffure, y fait naître des frissons. Quel miracle de beauté! Et je suis là déjà depuis 3 automnes. Mais il doit subvenir aux besoins de sa nouvelle famille et continue son voyage dans l'espoir de rencontrer des dignitaires qui lui procureraient des recommandations auprès de l'empereur, ne cessant ses ascensions dans les montagnes pour apaiser l'inquiétude dans laquelle le plongent les réponses qui tardent à venir. Je vais seule à la recherche du temple du lotus bleu. Comme je suis assis seule, muet, immobile, je sens des milliers de mondes pénétrer par chacun de mes cheveux. La pureté imprègne le tréfonds de mon cœur qui revient à son état originel. N'obtenant aucune réponse à ses demandes, il pensa s'engager dans l'administration militaire. À qui Pai pourrait-il confier son épée solitaire? Ses souhaits n'étant pas exaucés, il décide de partir plus loin à la rencontre de quelqu'un qui l'apprécierait. La séparation d'avec sa femme est douloureuse. Je pense à toi, quelque part au loin, par-delà le bleu du ciel. Mes yeux, jadis rayonnants, ne sont aujourd'hui que des sources de larmes. Ses requêtes deviennent suppliantes. Un homme valable arrivera à coup sûr à percer, mais il faut lui en donner l'occasion. Sa femme décède, lui laissant 2 enfants. Il pousse son voyage plus loin encore. De beau matin, je passe la porte d'argent. Quelle beauté! Superbe créature qui écarte les rideaux de perles de ce beau carrosse orné de nuages. Pleinement, nous échangeons quelques questions. Je pense de plus en plus qu'elle est descendue sur terre, droit du ciel. Elle est chanteuse et elle-même ressemble à un chant. Si après avoir fait connaissance, nous ne devions plus nous rapprocher, il aurait mieux valu ne pas nous rencontrer. À peine nous sommes-nous entrevus qu'un amour spontané a jailli. Lipo fait à Mademoiselle Liu une demande en mariage. Je souhaite que nous soyons unis jusqu'aux racines et qu'ainsi nous mourions comme les herbes d'automne. Lui assurant, je ne veux plus tournoyer comme une fleur qui tombe. Mais il ne peut tenir cette promesse. À peine notre amour a-t-il touché le sommet de la tendresse et de la beauté qu'il a fallu se séparer. Prend sa route, naviguant en jonque sur le fleuve jaune, toujours dans l'espoir de trouver un poste dans l'administration impériale par l'intermédiaire de ses rencontres. Et comme toute ma vie j'ai grimpé sur les monts, Lipo part faire l'ascension du mont Taishan, au sommet duquel se trouve la porte céleste. À l'aube, je bois dans l'étang de la mer céleste. Au crépuscule, je frappe à la porte du ciel. Seul, portant ma lyre précieuse, la nuit, je me promène dans la montagne bleue. Sur la montagne, la lune est claire, la rosée blanche. Des immortels se promènent sur les pics d'émeraude. Je m'imagine phénix en train de danser. Flotte ma robe au dessin de tigre et de dragon. Je touche le ciel, cueille l'étoile Paokuo. Enchantée, je ne pense plus à me retourner. Soudain, le jour se lève, tout disparaît. Seuls défilent les nuages aux cinq couleurs. Enthousiasmé par le message du ciel, il comprend que c'est à nous de trouver le chemin pour sortir de la misère et du chagrin. Ne laissons aux cieux que la question de la vie et de la mort, et repartant en pèlerinage dans les monts Huangshan, là où l'empereur mythique Huangti devint immortel, il rencontre sa quatrième épouse, qui était entrée dans les ordres taoïstes pour échapper au mariage traditionnel. Je respecte en vous la fille issue d'une famille de mandarins qui étudie le Tao et aime les immortels. De vos mains blanches, vous caressez les nuages bleus. Dans la brume pourpre flottent vos cheveux de gaze quand sur un phénix, tenant un fouet de jade, vous vous rendez vers le pic des monts Paravent. Sa fille, encline aux arts taoïstes, se joint à eux lorsqu'ils sont invités à l'ermitage de Yuan Tan Chu. Ma femme aime chevaucher le phénix. Ma fille adore la grue volante. Je les accompagne pour rendre visite aux immortels. Désormais, nous pratiquons la fonte d'or. A pris la voie du taoïsme qui n'exclut ni le vin, ni la viande, ni les céréales, contrairement à Maître Tan. « Ne voyez-vous pas, lui dit-il, que les flots du fleuve jaune tombant du ciel se ruent vers la mer pour ne plus revenir? Pour une vie accomplie, goûtons à pleines dents les joies qu'elle nous donne. Mon ami Tan Chu, versez-vous du vin, ne laissez pas vos coupes désœuvrer. » Par ce mariage, s'étant rapproché du cercle familial impérial, il eut une recommandation de la sœur cadette de l'empereur, elle aussi fervente taoïste. A-t-il réussi à percer aussi le mystère du ciel lorsque l'empereur Xuanzong l'appelle à la cour? Il le remercie de ces mots. Notre grande époque a restauré les traditions anciennes, car sa majesté ne chérit que les valeurs pures et vraies. Je chante à tue-tête et m'enivre pour fêter l'événement. Pour rentrer au service de celui qui commande les 10 000 chars, je prends ma cravache et saute en selle pour un long voyage. Je fais mes adieux à ma famille, en franchissant la porte, j'éclate d'un grand rire, la tête tournée vers le ciel. À la porte du Cheval d'Or, l'empereur est descendu de son carrosse, a marché vers notre maître et l'a accueilli comme s'il s'agissait du vénérable Ti. Il a donné pour lui un banquet à la table des 7 joyaux, l'a prié de manger et ses augustes mains lui ont même assaisonné sa soupe. Je chevauchais un destrier des étables impériales. Les étriers étaient incrustés de jade blanc. Mon lit était d'ivoire et mes couvertures de soie. Je mangeais dans de la vaisselle d'or. Ceux qui, dans le passé avec mépris, m'ignoraient, humblement me priaient de leur permettre de m'exprimer leur respect. Il exulte. Il est affecté au corps des conseillers privés de l'Académie de la Forêt de Pinceau ou des académiciens rédigeait les volontés de l'empereur en concordance avec les écrits de Confucius. Ta renommée n'a cessé de grandir bien au-delà des eaux obscures, lui écrit son cher ami Toufou. Ton talent littéraire d'une richesse inouïe s'est répandu sans rival. Les bateaux du dragon venaient te chercher et te quérir, même tard dans la nuit. Tu as gagné haut la main le concours pour le manteau bordé de fourrure, et en plein jour, le Fils du ciel te recevait au plus profond de son palais. Tu es ainsi monté haut dans les honneurs, augmentant le nombre de tes admirateurs. Augmentant aussi le nombre de ses ennemis qui craignaient son influence sur l'empereur. Complots et intrigues se trament contre Lippo et on le raille pour son ivresse. Devant sa cruche de vin, Li écrit une centaine de poèmes. Un jour, alors qu'il sommeille à demi dans l'ombre d'une taverne, l'empereur l'invite à se promener avec lui sur le fleuve. Li lève son verre et refuse. Dites à sa majesté que son serviteur est un immortel dans le vin. La cour a profité de la situation pour influencer l'empereur sur le manque de respect de Lippo. Notre illustre souverain a été induit en erreur par des calomnies et j'ai été privé de sa faveur par un perfide ministre. Désormais, l'empereur néglige Lippo, écrit Li Yangping. Mais il lui offre en signe d'adieu une tablette d'or sur laquelle il a calligraphié. Pour Lippo, le seul lettré de l'univers. Qu'il erre suivant son humeur du moment, qu'il boive partout où il ira, et quand il rencontrera un dépôt du trésor public, qu'on lui verse de l'argent. À cause de mon franc-parler, j'ai fini par être éloigné. Maintenant, je retourne sur les pentes du mont Long. Avec le chant des cinq soupirs, je quitte la capitale de l'Ouest. Au moment de mon départ, les cordons de ma toque se mouillent de larmes. Mais moi, à quoi suis-je juste bon? Mon épée dans mon fourreau en peau de requin, jusqu'à maintenant, ne m'a servi à rien et pend oisive à ma taille. Mais je porte sur mon registre un huoluo attaché au tour. L'ayant obtenu au monastère du vieux maître Gao Rikuei, comme l'empereur Xuanzong, après un long jeûne, une confession publique, ce talisman le protégera désormais des trois calamités, le feu, l'eau et le vent. Et tel un immortel, continue-t-il, empruntant un phénix doré, j'ai l'ambition d'épuiser le monde vaste et lointain, s'éloignant vers le sud de la Chine. Au sud du fleuve, en ce climat de pestilence, tu erres pour chasser sans donner de nouvelles, lui écrit son fidèle ami et poète Toufou, dont l'admiration sans limite lui avait fait dire, lorsqu'il pose le pinceau sur le papier, dieux et démons pleurent. Désespéré et seul, de mon épée précieuse, je coupe les flots des eaux qui cependant ne veulent pas cesser de couler. Le couple heureux des phénix chantant, soudain effrayé, s'est séparé. Sur quelle montagne se trouve le nuage vagabond qui a quitté son nid? Ta couverture de soie reste désœuvrée et moi, je rêve de l'union tendre des nuages et de la pluie. 30 000 lits de cheveux blancs, aussi longue est ma tristesse. Mieux vaut remplir ma coupe d'or et la vider sous la lune, dit-il en s'éloignant du monde. On me demande pourquoi je vis sur ces collines vertes. Sans répondre, je souris, le cœur serein. Fleur de pêcher sur l'eau qui court, tout s'en va et s'efface. Ici, c'est une autre terre et un autre ciel qui n'ont rien de commun avec le monde des humains en bas. Fatigué de la vie, son optimisme décroît, même envers les immortels qui ne viennent le chercher. Lui, l'immortel banni, comme l'avait surnommé Rechichen, selon la croyance que les immortels, ayant commis des fautes, étaient renvoyés sur terre par le ciel, il en devint sceptique. L'oiseau géant qui jadis de son ombre couvrait le ciel et la terre approche à sa fin. Sa force immense ne peut plus le soutenir. l'éclat sans pareil qui jaillissait de sa vie durera des milliers d'années. Il est allé à l'est, au bout du monde, mais il a accroché son aile au mûrier gigantesque derrière lequel se lève le soleil. Les pères aux fils transmettront son message, mais aujourd'hui, qui versera des larmes sur sa mort si Confucius, qui seul savait pleurer les créatures divines, n'est plus parmi nous ? La vie est un pèlerin qui passe, et la mort n'est qu'un retour au foyer. Un seul voyage entre le ciel et la terre, et ensuite, nous ne sommes que poussière jusqu'à la fin des temps. Le lapin sur la lune en vain pile son élixir, et le mûrier légendaire n'est déjà plus que brindille pour allumer le feu. Les ossements blanchis à jamais resteront immobiles et muets. Les pins, toujours verts, ne connaissent pas le printemps. À regarder devant soi ou en arrière, on ne peut que soupirer. Pourtant, l'aube dévoile le Moriquen. Levant la main, j'ouvre une passe dans les nuages. Mon esprit s'envole aux quatre extrémités. Comme sortant de la séparation du ciel et de la terre, le fleuve jaune vient de l'ouest et charmant, il pénètre loin dans la montagne. Grâce au précipice, l'infini. Mon œil épuise l'immensité du ciel. Fortuitement, je rencontre l'enfanson, les cheveux verts enroulés en double nuage. Il sourit de mon étude tardive de l'immortalité, d'avoir perdu le temps en vieillissant. Stupéfait, j'hésite un instant, dans cet infini, comment le retrouver ?